Je vous propose ce matin une exhortation, plutôt qu'une prédication à proprement parler, sur le thème de la Pentecôte. Ce sera une prédication un peu plus courte que d'habitude, qui s'inscrit dans ce culte sur le thème de la Pentecôte. Ce sera plus un mot d'ordre, un encouragement pour aller cette semaine, à partir de cette journée où nous fêtons la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, il y a 2000 ans, marque la naissance de l'Église. Et j'aimerais insister sur ce point. Dans la préparation du culte avec Peter, on s'était mis d'accord. Je vais vous parler plus particulièrement de l'Église, de la Pentecôte comme naissance de l'Église, comme moment où Dieu rassemble de manière plus claire encore qu'auparavant son peuple. Dieu a d'abord fait une alliance avec un peuple particulier, le peuple juif. Dieu a choisi un peuple parmi tous les peuples, parmi toutes les nations. Il a choisi ce peuple, le peuple d'Israël, pour porter son nom. Et pendant des siècles et des siècles, on entrait dans le peuple de Dieu par sa naissance dans le peuple juif et par le rite de la circoncision. Si l'on n'était pas juif et que l'on désirait faire partie de ce peuple élu de Dieu, choisi par Dieu, alors on pouvait se faire circoncire et devenir ce qu'on appelait prosélyte. C'est-à-dire qu'on se convertissait à la religion juive et ainsi on était associé au peuple de Dieu. Mais comme Peter l'a déjà souligné tout à l'heure, Jésus est venu mettre un terme à cette manière d'être en alliance avec Dieu. Pourtant c'est Dieu qui avait mis cela en place, mais c'était prévu pour un temps seulement. Et d'ailleurs, le peuple juif, le peuple d'Israël, avait comme mission non seulement de porter le nom de Dieu, mais de porter le nom de Dieu pour les autres nations. Elle devait témoigner de la présence de Dieu par une vie sainte. Ça n'a pas toujours été le cas. Et il a fallu que Jésus vienne et que par sa mort et par sa résurrection, et c'est ce que nous avons fêté à Pâques, Jésus inaugure un temps nouveau dans lequel des gens de toutes les nations sont appelés à entrer dans le peuple de Dieu. Et là aussi, nous l'avons dit tout à l'heure, ce temps où Jésus devait venir était annoncé par les prophètes de cette première alliance. Et lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, eh bien, là, on voyait que des gens de toutes les nations entraient dans le peuple de Dieu. J'aimerais simplement parcourir avec vous deux, trois textes avant de nous arrêter sur un texte dans le livre des Actes des Apôtres. Je lis d'abord dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49 et au verset 6. Un texte que nous avons lu vendredi soir dans notre étude biblique sur l'Apocalypse. Parce que dans l'Apocalypse, on voit la réalisation ultime de cette promesse de Dieu. Jésus, le berger, entouré de son peuple. Et dans ce peuple, dans cette foule immense des gens de toutes les nations. Voilà ce qui était dit au sujet du Messie, celui qui était envoyé par Dieu, Jésus qui est venu dans notre histoire. Ésaïe 49, verset 6, il était dit à son sujet 700 ans avant sa venue. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour que mon salut soit manifesté jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez déjà, dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, on entendait ce message qui résonnait, ça ne suffit pas un Seigneur pour une nation. Ce Messie sera Seigneur, sera le roi de toutes les nations. Et ça, Israël l'avait entendu. Et Israël devait porter ce message pour toutes les nations. Un petit peu plus loin, au chapitre 55, toujours dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons ces versets. Ésaïe 55, à partir du verset 1. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, c'est Dieu qui appelle, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. C'est peut-être pour notre pique-nique tout à l'heure, je ne sais pas. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David, le roi David et sa descendance. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples. Vous voyez ça, pas seulement roi d'Israël, mais témoin des peuples, comme conducteur, commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne ta splendeur. Dieu appellera les gens parmi les nations pour s'ajouter à son peuple. Et c'est pour ça que le texte continue et dit, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Et ça, c'est valable encore aujourd'hui. Écoutons cet appel de Dieu. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est tout proche. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. Qu'il vienne à notre Dieu qui pardonne abondamment. » Aujourd'hui encore, Dieu veut pardonner des hommes et des femmes pour qu'ils fassent partie de son peuple. Dieu a compassion de nous. Juste deux textes dans cette première partie de la Bible. Et là maintenant, nous allons basculer dans la deuxième partie de la Bible. Après la venue de Jésus, après la Pentecôte dont Peter a rappelé le message ce matin, l'Esprit Saint qui vient sur les disciples de Jésus, qui se mettent à parler dans toutes les langues des merveilles de Dieu. Oui, Dieu sauve encore aujourd'hui, et ce salut est pour vous, ce salut est pour nous. Actes des Apôtres, juste après les quatre évangiles, chapitre 1, verset 8. Jésus annonce avant de monter au ciel, « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on a là dans ce verset, en quelque sorte, le programme ou le plan du livre des Actes des Apôtres. Et tout au long du récit, on lit et on voit que l'Évangile est annoncé d'abord à Jérusalem, et puis en Judée et en Samarie, chapitre 8, les Samaritains qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Et puis au chapitre 10, avec ce soldat romain, Corneille, un païen, un non-juif, qui entend l'Évangile et qui reçoit l'Esprit Saint. Et à partir de là, une persécution commence, les chrétiens sont dispersés, et ils se mettent à parler avec les non-juifs et à dire « Jésus est mort pour vous aussi. Entrez dans le royaume, entrer dans le peuple de Dieu. Et je vous propose de nous arrêter quelques instants sur un passage de Actes chapitre 13, où l'on voit dans le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul une réalisation concrète de cet évangile annoncé à des non-juifs et des non-juifs qui entendent et qui reçoivent l'appel et l'Esprit de Dieu. Actes des apôtres, chapitre 13, et je lirai à partir du verset 44. On est dans un moment où Paul et son compagnon de service, Barnabas, vont à la synagogue. Ils sont juifs, ils vont d'abord rencontrer les juifs dans ces villes de la Méditerranée, autour de la Méditerranée. Et là, pendant le sabbat, dans la synagogue, ils parlent, ils prêchent, un peu comme Pierre à la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Et donc, on les invite la semaine d'après à revenir, et là, toute la ville est assemblée pour les écouter. Verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. Mais les Juifs, voyant les foules rassemblées pour entendre l'évangile, furent remplis de jalousie et ils contredisaient avec des mauvaises paroles, des blasphèmes, ce que disait Paul. Paul et Barnabas leur dirent alors ouvertement aux Juifs, « C'est à vous d'abord que la parole de Dieu a été annoncée. Mais puisque vous la rejetez, que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les non-juifs. Car ainsi nous l'a dit le Seigneur, et là Paul cite Ésaïe 49, verset 6 que nous avons lu tout à l'heure, « Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le peuple juif avait oublié sa mission. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 48, les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ils ont eu la foi. Et la parole du Seigneur se répand. Et au verset 52, nous lisons, les disciples était rempli de joie et d'Esprit Saint. J'aimerais simplement relever trois choses et regarder de manière pratique comment nous pouvons vivre ces trois choses aujourd'hui. La première, c'est que le salut est annoncé. L'évangile, la grâce de Dieu. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Venez à lui, repentez-vous et recevez une vie nouvelle. Comme on l'a lu dans Ésaïe tout à l'heure, si vous avez soif, si vous avez faim, pas seulement physiquement mais spirituellement, venez, tout est prêt, le repas est prêt, vous pouvez manger gratuitement. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Parce qu'on a envie de payer quelque chose. On a envie de faire quelque chose, nous, pour mériter l'amour de Dieu. Or, Dieu nous dit, moi je paye le repas, venez, gratuitement. L'évangile est annoncé. Les Juifs avaient reçu cet appel. Vous êtes mon peuple chéri. Je vous aime. Mettez en pratique mes commandements. Soyez saints, car je suis saint. Et dites cela aux autres peuples. Malheureusement, le peuple d'Israël avait fini par garder jalousement, comme un privilège, cette élection. Et ils pensaient que parce qu'ils naissaient juifs, parce qu'ils avaient reçu la circoncision, alors ils faisaient partie du peuple de Dieu et ils étaient sauvés. Et qu'ils fassent le bien ou qu'ils fassent le mal, quelque part, Dieu les aimait quand même, et donc, ils n'avaient rien à craindre. Eh bien, ici, on voit la dureté du cœur de ces hommes, jaloux que d'autres qu'eux entrent dans le peuple de Dieu. La deuxième chose que je relève, c'est le contraste qu'il y a entre ceux qui entendent l'appel de Dieu et qui le rejettent, et ceux qui entendent l'appel de Dieu et qui s'en réjouissent. Colère et jalousie pour ceux qui refusent la grâce et qui veulent mériter l'amour de Dieu. Joie de ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Et puis, la troisième chose que je relève, c'est que ce salut qui était d'abord annoncé aux Juifs est finalement aussi annoncé aux non-Juifs. Et accomplit ainsi les prophéties au sujet de Jésus, lumière des nations. Pas seulement lumière pour le peuple d'Israël, mais lumière pour toutes les nations. Que les nations se réjouissent, en anglais, let the nations be glad. Ça, hein? Que les nations se réjouissent. Et là, on le voit dans ce texte, des non-juifs se réjouissent parce que l'évangile vient jusqu'à eux. Je passe tout de suite et pour finir à des considérations plus pratiques. Regardez quelques instants autour de vous. Regardez les gens qui sont là autour de vous. Dites-nous de quel pays vous êtes originaire. Quelle langue parle-t-on dans votre pays d'origine ou dans le pays d'origine de vos parents? Allez-y, dites-nous. Le créole. Où ça?
À La Réunion.
Le créole réunionnais, donc c'est un créole particulier.
Le créole martiniquais.
Attention de ne pas confondre. Mildred. Le créole haïtien. Vous voyez? Nous on dit le créole. Attention. C'est pas pareil. Quoi d'autre? Voilà, hein? Nous on va dire les Camerounais. Le Tamoul au Sri Lanka.
Moi ma langue c'est le Dida.
Le Dida. En Côte d'Ivoire.
Comme moi.
Comme elle.
Ah! Dieu a fait quelque chose au même endroit là. Voilà. Quoi d'autre?
Le Lingala.
Le Lingala. Au Congo. Quel Congo?
Les deux.
C'est bien, c'est pratique. Le Kabyle. Oui. Au Kabylie. Afrique du Nord. Allez, nos amis américains là. Voilà. L'anglais américain.
L'anglais anglais.
Ouais, mais lui, il est moitié anglais, moitié américain, donc on lui pardonne.
L'allemand.
Ouais.
Le Mina au Togo.
Oui, au Togo. Le créole guyanais. Très bien.
Camerounais.
Oui. On est plusieurs. Il y a plusieurs du Cameroun là.
Le français du Nord,
parce qu'on a aussi
le français du Sud.
Le français, oui. On oublierait presque qu'on est en France, hein. Voilà. De différentes régions. Moi, je viens de la Côte d'Azur, du Nord, Pas-de-Calais, c'est juste l'autre bout. de la France. Alors, j'ai pas compté, mais ça fait 10, 12, 15 peut-être origines différentes au moins. Hein? Vous voyez, c'est ça l'Église. C'est ça qui s'est passé à la Pentecôte. Et c'est pour ça que 2000 ans après, nous sommes réunis dans cette salle ce matin. Parce que Jésus est la lumière des nations. Et pas seulement du peuple hébreu. Et c'est pour cela que nous nous réjouissons. Parce que nous sommes là ce matin. Dieu a appelé des hommes et des femmes de toutes les nations. Et Dieu est fidèle à sa parole. C'était marqué dans l'Ancien Testament, c'est marqué là dans le livre des Actes des Apôtres, il y a 2000 ans, et on voit aujourd'hui encore la réalisation de cette parole de Dieu. Je ferai venir à moi des gens de toutes les nations. Comment c'est possible que nous soyons réunis ici ce matin ? Nous pouvons venir par habitude, nous pouvons venir par culture, culture de notre pays ou culture religieuse, mais le cœur, c'est l'Évangile. Si Dieu nous réunit, c'est d'abord parce que nous avons accepté l'Évangile, nous avons reçu son Esprit Saint. C'est comme ça que l'on entre dans le peuple de Dieu. Le baptême, le fait de venir au culte, de vivre dans la communauté qu'est l'Église, c'est la réalisation concrète de ce que chacun qui a rencontré Jésus personnellement vit dans sa foi personnelle. Entrer dans le peuple de Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu, recevoir la vie éternelle, comme on l'a lu dans ce texte. Ce sont trois façons d'exprimer une même réalité. Et j'attire votre attention sur l'attitude de ces Juifs jaloux dans le texte que nous avons lu. Les Juifs, voyant les foules, furent remplis de jalousie. Le peuple d'Israël avait à ce moment oublié que l'appartenance à Dieu, c'est une grâce. C'est un cadeau, c'est gratuit. Ça ne peut pas se mériter. Et pourtant, ces hommes, bien intentionnés dans leur religion, essayaient de plaire à Dieu et de prouver à Dieu qu'ils étaient justes. Et c'est pour ça qu'ils ne supportaient pas que ces méchants païens non-juifs, pécheurs, alors qu'eux essayaient de respecter la loi de Moïse, entrent dans le peuple de Dieu aussi. Pourquoi est-ce que eux, ils se casseraient la tête tous les jours à essayer de respecter la loi, et maintenant on leur dit, mais non, c'est gratuit. Mais ils se disaient, mais non, ça marche pas comme ça. Ils avaient oublié que l'amour de Dieu ne se mérite pas. Et que s'ils étaient aux yeux de Dieu une nation sainte, c'est d'abord parce que Dieu pardonne leurs péchés et les rend saints. Et ça, c'est le sacrifice de Jésus et seulement celui-là qui a accompli cette purification des péchés. Et on voit donc une opposition entre cette jalousie et cette méfiance du peuple d'Israël ici, qui non seulement a rejeté son Sauveur, mais rejette encore ceux qui témoignent que Jésus est ressuscité. Donc on voit cette opposition entre leur jalousie et puis la joie des disciples, la joie de ceux qui acceptent de ne pas pouvoir mériter l'amour de Dieu et qui demandent pardon à Dieu et qui reçoivent son pardon. Et il me semble que c'est quelque chose qui peut nous interpeller ce matin. Et je terminerai par là. par rapport à notre mentalité aujourd'hui en 2016, notre attitude par rapport à ces autres peuples, ces autres nations, nous qui sommes là ce matin et qui venons des différents peuples que nous avons mentionnés, quelle est notre attitude ? Est-ce que nous sommes méfiants vis-à-vis des autres ? Ou est-ce que nous nous réjouissons des autres nations ? Vous voyez, nous vivons dans un monde de mondialisation. Et il y a des défis importants par rapport à l'immigration, par exemple. Ce qui fait le thème de certains discours politiques. C'est un vrai enjeu aujourd'hui. Les guerres, les famines déplacent des populations. Et les conflits qui ont lieu en Syrie, au Liban, etc., nous en voyons les conséquences dans nos pays européens. Les familles syriennes, les familles irakiennes viennent aujourd'hui en France et à Blanc-Ménil. Quelle est notre attitude ? Est-ce que nous nous méfions ? Ou est-ce que nous nous réjouissons ? Parce que le Seigneur nous donne là une occasion de témoigner de sa grâce. De dire à ces gens qui viennent trouver refuge en France, l'Évangile est pour vous. Venez, entrez dans le peuple de Dieu. Il y a là une invitation pour nous qui sommes là aujourd'hui et qui ne sommes peut-être pas encore entrés dans le peuple de Dieu à venir et à nous réjouir. Et il y a aussi une invitation pour nous qui sommes entrés dans le peuple de Dieu parce que Dieu nous a appelés, parce que Dieu nous a fait grâce à annoncer aux autres nations qui viennent à nous aujourd'hui et de leur dire « Jésus est votre sauveur, venez à lui. » Nous allons prier. Seigneur Jésus, en ce jour où nous nous souvenons de la Pentecôte, de ce moment historique où ton Esprit Saint a été répandu sur les hommes, nous voulons nous tourner vers toi et te dire merci. Te dire que nous nous réjouissons parce que tu nous as, nous aussi, appelés à toi. Et je te prie que tu nous aides à trouver en toi cette joie et le sens profond de notre identité culturelle. Nous venons de pays différents, nous avons des langues différentes. Nous parlons ensemble ici le français dans ce pays et dans cette ville du Blanc-Ménil. Et ce qui nous réunit d'abord, c'est ton Esprit Saint qui vit en nous, qui unit ton Église. Aide-nous à nous réjouir de cette unité que tu produis entre nous et en nous. Et apprends-nous à l'annoncer aux autres. Aide-nous à être des chrétiens joyeux. Joyeux de dire autour de nous que tu es le Sauveur, que tu sauves encore aujourd'hui, qu'il y a encore de la place dans ton peuple. Amen.